Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe qui est, enfin, incroyablement frustrant dans le monde du commerce en ligne. C'est un scénario qu'on croise tout le temps.
Ah ouais, beaucoup trop souvent même.
Ouais, clairement. Imagine la scène. On a une boutique en ligne avec un score PagePins Insights qui est absolument parfait, un beau 90 ou plus. Tout est dans le vert, le thème est ultra léger, les images sont compressées au pixel près, tout a l'air nickel.
La façade parfaite, quoi.
Exactement. Sauf que, au moment le plus critique, donc quand un client sort sa carte bleue et veut payer, bah, le passage en casse met 4 ou 5 longues secondes à charger. Pour donner une image, c'est comme si on admirait une voiture de sport avec une carrosserie super aérodynamique, polie à l'extrême, mais qui cacherait un moteur de tondeuse à gazon dès qu'il faut tracter une vraie charge.
C'est une super métaphore parce que c'est exactement ça. En surface, ça brille, mais sous la contrainte, la mécanique lâche complètement. Et cet effondrement, bah, il coûte des fortunes en abandon de panier.
Et le réflexe de base, souvent, c'est la panique, non?
Ah oui, totalement. Les équipes techniques paniquent sur la partie visible. Elles vont changer de thème, virer des dizaines d'extensions, rajouter encore une surcouche pour compresser les images.
Alors que le problème n'est pas du tout là.
Bah non. C'est ça le truc. On va se baser aujourd'hui sur un article hyper pointu de Vanguard Edge Consulting. Et selon leur analyse, le véritable coupable n'est quasiment jamais sur la partie esthétique ou les plugins.
C'est l'infrastructure elle-même.
Voilà. L'auteur montre bien que la faille, elle se trouve dans les fondations du serveur.
D'accord. Mais alors, la question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi cette fameuse voiture de sport a l'air si rapide au début? C'est quoi cette illusion dont parle l'article?
L'article de Vanguard et Edge pointe du doigt une illusion massive, qui est celle du cache de page.
Le fameux cache. Comment ça marche concrètement pour tromper tout le monde?
En gros, ça vient de la différence entre un visiteur anonyme et un acheteur actif. Les systèmes de cache, genre WP Rocket ou les réseaux CDN, génèrent une sorte de photographie statique d'une page web.
Ok, donc pour quelqu'un qui fait juste du lèche-vitrine sur le catalogue, le serveur ne calcule rien du tout.
C'est exactement ça. Il distribue juste cette photo préenregistrée. L'auteur rappelle d'ailleurs que ça réduit les temps de chargement de 60 à 80%. C'est un bouclier énorme.
Ouais, mais alors qu'est-ce qui se passe au moment de payer?
Bah, la subtilité de WeCommerce, c'est que dès qu'il y a une action spécifique comme se connecter à son compte ou afficher la page de paiement, ce bouclier est obligatoirement désactivé.
Obligatoirement? Parce qu'on manipule des données uniques, j'imagine.
Exact. On ne peut pas servir une page statique avec le nom ou les frais de port d'un autre client, ce serait absurde. Et c'est là que le cache saute. À cet instant précis, chaque action déclenche une requête PHP directe vers la base de données.
Donc plus de filet de sécurité?
Plus aucun. Le système doit tout calculer en direct. Les frais d'expédition, vérifier si le stock est là, appliquer les taxes. Et c'est pour ça que l'obsession pour le score PageSpeed Insights, c'est un vrai piège, selon l'article.
Parce que PageSpeed teste dans des conditions idéales, c'est ça?
Exactement. Des conditions de laboratoire sur une page d'accueil statique. Il ne voit pas du tout ce qui se passe quand des dizaines de requêtes frappent le serveur de plein fouet pendant un pic d'affluence, genre un Black Friday. C'est là que le Time to First Byte, le TTFB, explose littéralement.
D'accord. C'est marrant parce que, si on veut bien visualiser le truc, se reposer juste sur le cache pour un e-commerce, c'est un peu comme...
Comme quoi?
Bah, c'est comme mettre des mannequins en carton super réalistes dans les allées d'un grand magasin. L'idée, c'est de faire croire qu'il y a plein de vendeurs. Visuellement, ça donne une belle illusion tant que les gens regardent depuis le couloir.
Ah oui, je vois très bien.
Mais dès qu'un vrai client approche, touche un vêtement et pose une question pointue sur les tailles en réserve, bah, le mannequin en carton ne sert plus à rien. Il faut qu'un vrai employé aille fouiller dans les stocks en arrière-boutique.
Et si cet employé est débordé, tout le magasin se fille. C'est une très bonne analogie. Le vrai employé, ici, c'est le serveur.
Voilà.
Et si ce serveur doit encaisser tous ces calculs dynamiques d'un coup, la façon dont il est architecturé, c'est une question de survie. Et c'est là que Vanguard Edge met le doigt sur la différence fondamentale entre Apache et Nginx.
Et ça, c'est crucial, parce qu'Apache reste le standard par défaut sur presque tous les hébergements. Pourquoi est-ce qu'il s'effondre aussi vite sous la charge?
Bah, le mécanisme d'Apache, il est historique. Il a été pensé à une époque où le web était beaucoup moins interactif. Techniquement, selon l'article, Apache alloue un processus entier, très lourd en ressources, par visiteur.
Un processus complet juste pour une personne?
Ouais. C'est comme un réceptionniste d'hôtel qui accompagnerait chaque client jusqu'à sa chambre, porterait ses valises et attendrait derrière la porte jusqu'à ce qu'il reparte.
Ah oui, c'est pas du tout optimisé, donc si on a 200 acheteurs en même temps, le serveur ouvre 200 processus.
C'est ça. Et la mémoire vive, la RAM, sature tout de suite. Quand il n'y a plus de RAM, le serveur utilise son disque dur comme mémoire de secours. C'est le fameux swap. Et là, les temps de réponse s'écroulent.
D'où la mise en avant de Nginx par l'auteur. La logique est différente.
Totalement différente. Nginx fonctionne par événement. Au lieu de bloquer un processus par personne, il utilise un nombre fixe de travailleurs, des workers, qui gèrent des milliers de connexions en même temps, de façon asynchrone.
Pour reprendre l'hôtel, c'est un réceptionniste central qui donne les clés à la volée sans quitter son bureau.
Exactement. Et l'article cite d'ailleurs un benchmark de Coder.io de 2025 pour quantifier ça, avec 80 utilisateurs simultanés.
Ouais, les chiffres de ce test, je les ai sous les yeux, ils sont assez brutaux.
Vas-y, rappelle-les pour voir.
Alors d'un côté, une infrastructure hybride basée sur Apache gère 3035 actions de checkout. Mais le truc fou, c'est qu'elle subit une perte de 71% quand on enlève le cache, avec un TTFB qui monte à 800 millisecondes.
71% de perte, c'est énorme.
Avec un TTFB compressé à 220 millisecondes.
Faut vraiment insister sur ce 71% de perte avec Apache. Perdre plus des deux tiers de sa capacité dès que le cache statique disparaît, c'est avoir un château de cartes.
Surtout en e-commerce où on peut rien cacher.
Exactement. Et l'article souligne aussi l'importance de PHP-FPM. C'est un gestionnaire qui isole l'exécution du code PHP. On lui donne strictement 30 à 50 mégaoctets de mémoire par processus ou commerce.
Ce qui empêche les fuites de mémoire qui font cracher Apache d'habitude.
C'est ça, ça crée des cloisons étanches.
Mais du coup, j'ai une question. Si Apache perd 71% de ses capacités sur du dynamique, enfin, c'est comme courir un sprint avec des boulets aux chevilles, pourquoi ça reste le standard absolu chez les hébergeurs en Devinet ?
Ah, la réponse tient dans un tout petit fichier de texte que beaucoup connaissent, .htaccess.
Ah oui, le fameux .htaccess.
Voilà, c'est le couteau suisse du web classique. N'importe quel plugin peut y mettre des règles de redirection en un clic, et Apache lit ça en temps réel sans jamais redémarrer.
C'est ultra pratique pour l'utilisateur lambda, quoi.
C'est d'une commodité absolue. Le problème, c'est que Nginx, pour rester rapide, refuse de lire ses fichiers distribués. Toutes les règles doivent être codées en dur dans la configuration centrale du serveur.
Ce qui demande de vraies compétences en administration système.
Absolument. Donc l'industrie a simplement décidé de sacrifier la performance pure sous charge pour garder cette facilité d'utilisation.
On garde un vieux moteur juste parce que le tableau de bord est plus simple en fait.
C'est un peu ça. Mais l'auteur de Vanguard Edge explique qu'une fois qu'on a mis en place la base Nginx, on peut s'attaquer à la vitesse de traitement pure.
Sans forcément acheter des serveurs hors de prix.
Exact. La première règle, souvent oubliée, c'est la version du langage. Passer à PHP 8 point quelque chose, c'est pas juste de la maintenance. Ça apporte mécaniquement un gain de 13 à 20% de requêtes traitées en plus par seconde.
C'est énorme juste pour une mise à jour.
Oui, et l'article rappelle fermement que PHP 7.4 est obsolète et vulnérable depuis novembre 2022.
Ouais, donc gagner 20% de perf tout en bouchant des failles de sécurité, c'est indispensable. Mais la vraie magie dans cette section de l'article, c'est l'introduction de Redis, non ?
Ah, Redis, c'est fondamental. Vanguard Edge explique que WooCommerce est un logiciel très bavard. Il passe son temps à solliciter la base de données MySQL pour vérifier les prix, les stocks, via la table WP Options.
Ce qui sollicite le disque dur du serveur en permanence.
Exactement. Même sur des disques SSD très rapides, ça prend du temps. Redis, lui, prend ce cache-objet, donc les résultats fréquents, et les met directement dans la mémoire vive, la RAM.
Et la RAM est infiniment plus rapide qu'un disque physique.
C'est le jour et la nuit.
Pour imager ça, c'est l'exemple du barman dans un pub blindé de monde un samedi soir.
Vas-y, je t'écoute.
Bah, sans Redis, chaque fois qu'on commande la bière la plus populaire, le barman doit descendre à la cave, donc le disque dur MySQL, tirer une pinte et remonter. Au bout de 10 commandes, le mec est épuisé et la file d'attente est dingue.
C'est sûr que ça bouchonne.
Et Redis, c'est l'équivalent de mettre un petit fût de cette bière directement sous le comptoir. La commande tombe, le barman se baisse, paf, c'est instantané.
J'adore. C'est exactement ça, un gain de temps monumental. Donc Nginx gère la foule à la porte, PHP FPM prend les commandes calmement, et Redis sert depuis le comptoir. Le serveur respire enfin.
Bon, ça c'est pour le matériel et l'infrastructure. Mais l'article va plus loin. Il dit que si le logiciel lui-même range mal ses données, ça bloque quand même.
Oui, on touche à la dette technique de WooCommerce. Pendant des années, le système sauvegardait les commandes des clients selon la même logique qu'un simple article de blog.
Attends, une commande e-commerce rangée comme un article de blog?
Ouais. Tout était entassé dans une seule table de la base de données, la WP Post.
Mais c'est un non-sens total.
C'est le péché originel de Rothkreuz. À la base, c'est fait pour publier des billets. Mais une commande, c'est complexe. C'est une adresse, un taux de TVA, un historique bancaire. Forcer tout ça dans une structure pour du texte brut, ça a créé un goulot d'étranglement sévère.
Et c'est là que l'article parle du HPOS, le High Performance Order Storage.
Exactement. L'idée de HPOS, c'est enfin d'offrir aux commandes leur propre table dédiée, sans se mélanger avec les articles.
Et les chiffres partagés par l'auteur sont dingues. Créer une commande devient 5 fois plus rapide, et filtrer l'historique d'un client, c'est 40 fois plus rapide.
40 fois, oui. Pour une boutique qui a plus de 50 000 commandes en base, l'article parle d'un gain de fluidité de 80 et 90%, et avec la mise à jour WooCommerce 9.8 de 2025, le temps de chargement du back-office, donc l'administration, a été réduit de 83,5%.
On passe d'une usine à gaz à un truc qui répond en temps réel. C'est fou.
Clairement. Mais au milieu de tout ça, il y a un dernier problème abordé par Vanguard Edge. Et honnêtement, ça ressemble à une mauvaise blague.
Ah oui, l'histoire du WP Cron. J'ai lu ça. C'est aberrant.
Tu m'étonnes. En gros, le système n'a pas d'horloge interne indépendante pour lancer ses tâches de fond, comme envoyer des emails ou synchroniser les stocks.
Et donc, il utilise quoi ?
Un déclencheur factice. Il se greffe sur les visites des clients. Le système attend qu'un utilisateur charge une page et lui impose de faire tourner la tâche de fond en plus de sa propre navigation.
Donc, en plein pic de trafic, un acheteur sur 10 se mange 2 secondes de chargement, en plus juste parce que son clic a lancé une synchronisation en arrière-plan.
C'est exactement ça. Et sur une page de paiement, 2 secondes de gel inexpliquées, le client croit que sa carte a planté et il s'en va.
C'est absurde pour un logiciel professionnel. C'est comme si, je sais pas, le directeur d'un supermarché disait que le 10e client qui arrive à la caisse doit obligatoirement passer la serpillière dans le rayon fruits et légumes avant de pouvoir payer.
C'est tellement ça. C'est la garantie de rendre le client fou. Heureusement, l'auteur précise que c'est hyper simple à corriger pour un technicien. On désactive ce déclencheur virtuel et on met une vraie tâche planifiée sur le système d'exploitation du serveur. Ça prend 5 minutes et ça sauve des milliers de ventes.
D'accord, donc on a vu les fondations, le cache qui saute, la RAM, la base de données mal rangée et ses tâches parasites. Mais pour ceux qui nous écoutent, l'article donne quoi comme méthode pour mesurer tout ça de façon fiable ?
La méthodologie de Vanguard Edge est très stricte. Tester la page d'accueil en navigation privée, ça sert à rien.
Il faut se connecter, c'est ça ?
Oui. Se connecter, mettre des trucs dans le panier pour bien désactiver le cache et utiliser des outils pour simuler plein de visiteurs en même temps. L'indicateur clé, c'est ce fameux TTFB, le temps de réponse du serveur.
Et c'est quoi les seuils d'alerte ?
L'article est binaire là-dessus. Si le TTFB dépasse les 800 millisecondes sous la charge, c'est une alerte rouge absolue. L'architecture va céder.
Et un système sain ?
Il doit rester en dessous des 400 millisecondes. Et c'est là qu'on voit le gouffre entre les hébergements. Sur du mutualisé standard, on plaffonne souvent entre 900 et 1400 millisecondes en dynamique.
Alors que sur une infra managée, taillée avec NGINX et Redis comme préconisé, on tombe entre 120 et 250 millisecondes.
Voilà. Et chaque fraction de seconde gagnée, c'est du chiffre d'affaires préservé. Le message, c'est vraiment de consolider le socle avant de s'amuser à changer la couleur d'un bouton.
Ce qui est très logique. D'ailleurs, l'article recommande à ceux qui doutent de leur infrastructure de faire un pré-audit de performance. Il y a un outil gratuit à l'adresse exacte chiffre.audit.vanguard-edge-consulting.com. C'est vraiment le point de départ pour avoir les vraies données de son propre moteur.
C'est ça. Et pour clore cette analyse de l'article, l'auteur soulève une réflexion beaucoup plus large qui fait réfléchir.
Ah ouais ? Laquelle ?
Quand on voit le niveau d'ingénierie chirurgicale dont on vient de parler, les serveurs événementiels, la RAM dédiée, la refonte des bases de données...
Ouais, ça fait beaucoup pour un simple CMS.
C'est une entreprise hyper complexe qui avance juste masquée derrière un tableau de bord qu'on connaît bien.
C'est une excellente question pour terminer. On avait commencé avec l'image de la voiture de sport au moteur défaillant. On comprend bien que pour supporter la vraie charge financière du e-commerce d'aujourd'hui, mettre un coup de polish, ça suffit plus.
Ah, ça non.
Il faut vraiment ouvrir le capot, virer la vieille mécanique et forger l'architecture lourde qu'une vraie machine transactionnelle demande. Ce sont des fondations invisibles, mais c'est là que se joue toute la viabilité de la boutique.